Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Jean-Christophe Francis et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Suite de notre série donc, de dernière série de la saison d'ailleurs, avant de vous retrouver à la rentrée. On a choisi cette semaine de parcourir le monde avec quelques grandes voix d'écrivains, voyageurs, d'aventuriers, d'aventurières qui disent le monde à travers des livres. Deuxième volet donc de ces carnets de voyage. Après avoir évoqué quelques grandes figures, figures tutélaires d'écrivains voyageurs, Nicolas Bouvier, Joshua Slocum, Bernard Moitessier, nous poursuivons notre marche exploratoire autour des récits de voyage, ou devrais-je dire peut-être autour des récits d'aventure et de celles et ceux qui les produisent. S'inscrivent-ils dans le siège de ces figures évoquées hier, justement. Qu'est-ce qui fait l'écrivain voyageur? Comment définir ou distinguer l'écrivain voyageur de l'aventurier ou même du grand reporter? Le voyage est-il nécessairement une aventure ou encore nécessairement engagé, intimement, politiquement? Comment devient-on écrivain? Y a-t-il des moments fondateurs à l'origine d'un voyage ou d'une aventure? Il y a souvent, souvent, une expérience fondatrice.
J'étais parti pour de plus petits tours, pour des pérégrinations beaucoup plus modestes. À 17 ans pour la première fois, la Laponie, ce sont des pays assez confortables. Le voyage était plutôt une façon de vivre, un mode de vie plus intense et plus lyrique que la vie sédentaire, mais qui n'est pas le contraire de la vie sédentaire. Pour nous, le voyage était un catalyseur. Si vous voulez, on se déracine, on coupe ses attaches, on devient plus vulnérable, on devient plus mobile, on est obligé de s'engager chaque jour, on est beaucoup plus réceptif. Et on est mieux à même de faire le point, c'est-à-dire d'éprouver les choses par rapport à soi et non pas par rapport au milieu qui vous abrite ou au cadre qui vous détermine. On ne peut pas comprendre les gens si on ne partage pas entièrement leur vie, côté positif et côté négatif. Et je crois que dans le mode de voyage que nous avions adopté, où nous étions assez soumis aux accidents, aux impedimenta, aux avatars de toutes sortes, ça nous mettait aussi davantage à même de comprendre les difficultés des gens que nous côtoyons.
Cette voix, c'était celle de Nicolas Bouvier, bien sûr, écrivain voyageur suisse, archive de la RTS de 1963, auteur d'un ouvrage devenu mythique, L'usage du monde, ce voyage en Laponie qu'il évoquait, qui fut comme une révélation pour lui à 17 ans. Donc, l'écrivain s'élance dans une vie d'errance et d'écriture. Nous allons voir ce que fut pour nos invités, respectivement aventuriers et grandes voyageuses. Eh bien, ces expériences fondatrices, comment sont-ils? Sont-elles devenues des explorateurs, écrivains aguerris? Que va-t-on chercher, d'ailleurs, sur l'ailleurs? Qu'est-ce qui préside à l'écriture, le besoin de s'éprouver, d'apparaître au monde, d'en saisir et d'en restituer un peu la complexité? Nos deux invités, Anne Brunswick, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, écrivaine, vous collaborez notamment à la revue 21. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur de longs séjours à l'étranger qu'on évoquera. Je pense à Voyage avec l'absente dont on parlera, Sibérie, un voyage au pays des femmes, et puis Bienvenue en Palestine également. À vos côtés, Patrice Franceschi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous, écrivain voyageur, aventurier, navigateur, aviateur, engagé notamment pour la cause kurde, on en parlera probablement depuis une trentaine d'années maintenant. Vous aviez écrit, on s'en souvient, Mourir pour Kobané, mais aussi Première personne du singulier, un recueil de nouvelles pour lequel vous aviez d'ailleurs reçu le concours de la nouvelle en 2015, mais aussi Avant la dernière ligne droite, beaucoup d'autres livres encore. Vous entendiez l'un et l'autre, Nicolas Bouvier, est-ce que c'est une figure tutélaire pour vous, qui vous inspire, Patrick Franceschi?
Patrice,
mais décidément, je ne sais pas pourquoi
c'est
je vais
pas
vous
grave,
appeler Patrick.
Ça commence Patrice. Sur une autre du jour. Nicolas Bouvier, en tant qu'écrivain voyageur, est une figure tutélaire, une référence. Mais ne me considérant pas moi-même comme un écrivain voyageur, préférant l'univers des écrivains aventuriers, ça reste pour moi un auteur formidable, mais pas une figure tutélaire. Je placerai plutôt là-dedans la filiation dans laquelle je pense trouver ma famille, là où je me sens chez moi, et qui part de très très loin, depuis l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, jusqu'à aujourd'hui des Malraux, des Hemingway, des Conrad bien entendu, ou Nikos Kazantzaki, Dino Buzzati et tant d'autres, voilà, qui ont gardé le sens du tragique de la vie, et pour lesquels l'écriture, comme les engagements qu'ils ont connus, dans leurs aventures à eux, et Dieu sait si Romain Gary et les autres en ont connu, est une manière en fait d'exister qui me convient parfaitement. Parce qu'ils ont compris que la vie est tragique et que l'on vit dans le mensonge. Les deux grandes choses qu'il faut comprendre.
Anne Brunswick, est-ce que vous vous sentez proche de Nicolas Bouvier ? Je crois pas. Vous aviez dit dans une interview que vous étiez justement assez loin de Nicolas Bouvier, que vous alliez dans des endroits où il ne se passe pas grand-chose, disiez-vous. Vous n'êtes pas vraiment dans l'exotisme, vous êtes plutôt dans l'infraordinaire, pour reprendre la formule de Pérec, c'est-à-dire dans ces endroits du quotidien un peu communs, un peu évidents.
Je vais pas faire le procès de Nicolas Bouvier. Je crois qu'il est allé lui aussi dans des endroits où il ne se passe rigoureusement rien. J'admire énormément sa prose. Voilà, je trouve un très grand écrivain. J'ai eu en même temps l'impression, mais peut-être parce qu'il était très jeune au moment où il a fait ce voyage, qu'il a cherché à s'éprouver lui-même, à éprouver ses propres capacités. Alors que, pour moi, c'est pas l'objet. Hein. Pour moi, c'est la rencontre avec les autres et mes propres capacités. C'est vraiment pas le sujet.
Alors, on va commencer avec vous, Patrice Franceschi. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore ou pas beaucoup, je rappelle que vous êtes fils de militaire. Vous avez multiplié les expéditions et autres aventures en Amazonie, en Afrique, en Nouvelle-Guinée, sur la terre, sur les mers, avec vos différents navires, toujours baptisé la Boudeuse, avec dans les airs aussi, avec votre ULM à chaque fois. Vous y avez rencontré de nouvelles cultures, de nouveaux peuples, essayant aussi de leur apporter un certain soutien. Je parlais tout à l'heure des Kurdes, mais il y a eu aussi les Pygmées, les Papous, pour lesquels vous avez créé des associations. Il y a quelques années, vous aviez rejoint justement les Kurdes syriens du Rojava, où vous allez encore là dans quelques jours, je crois.
Exact.
Pour voir comment est-ce qu'ils résistaient contre le joug Daesh. Vous en aviez tiré ce livre, Mourir pour Kobané. Vous êtes un homme de conviction, un homme d'engagement aussi, cet engagement. Il a parfois été extrêmement poussé, puisque vous êtes allé jusqu'à prendre les armes. Ça a été le cas du côté de l'Afghanistan, où vous êtes battu aux côtés des insurgés contre les soviétiques. Vous êtes co-auteur, Patrice Franceschi, de cet ouvrage, L'aventure, le choix d'une vie, avec d'autres auteurs, Sylvain Tesson, Gérard Chalian, Alexandra Lapierre, Pascal Manoukian et d'autres. Vous expliquez votre passion et votre engagement pour l'aventure. Et il s'agit pour vous toutes et tous de présenter une aventure fondatrice. Vous racontez la vôtre. 1978, vous avez à peine 25 ans et vous parcourez
23.
Le Nil. 23. Vous parcourez le Nil depuis sa source jusqu'à la mer, par les seuls moyens du voyage véritable, dites-vous, à pied, en pirogue, à chameau, 8 mois d'aventure totale, de leçons de vie sans égale, de rencontres gravées au fer chaud de la vérité. Qu'est-ce qui, à l'époque, vous pousse dans cette aventure? Qu'est-ce que vous cherchiez et en quoi est-ce qu'elle a été fondatrice?
Alors, ce livre, L'aventure, le choix d'une vie, est un inédit de la collection que je dirige et qui a 4 ans, et on l'a écrit pour le 4e anniversaire de cette collection qui fête aussi son 40e titre et qui essaie de réunir tous les livres qui, d'un niveau littéraire, permettent de transformer, ou en tout cas on voit qu'on peut penser au-delà de l'anecdote ce qui nous arrive et transformer toute expérience en conscience. Et là, l'idée, la thématique, le tout premier qui avait fondé la collection s'appelait « L'aventure pour quoi faire ». Voilà. Et celui-ci, j'ai demandé à mes petits camarades, donc de Alain Mabankou jusqu'à Manoukian, en passant par Kefelec, Tesson, Chalian et les autres, racontez-moi l'aventure fondatrice de tout ça, ou quelque chose qui s'en rapproche. Voilà. Et moi, j'ai choisi le Nil, simplement parce que ça a été l'une des aventures fondatrices pour moi, mais pas en fait la première, mais je voulais pas raconter la première, parce que c'était pas la première fois, qui était en fait le moment où j'ai fait ma fugue mineure, pour décider d'être propriétaire de ma vie et de choisir, de sauter hors des rails pour choisir mes
propres. J'ai été étonné que vous ne choisissiez pas justement celle-ci, parce que vous l'aviez déjà raconté.
Oui, et dans Avant la dernière ligne droite, qui sont des mémoires intermédiaires, je le racontais. Donc j'ai choisi quelque chose qui s'est passé 3 ans après, mais qui était très important pour moi, parce que c'était la découverte du désert et dans sa réalité, celui des caravanes, des toutes dernières caravanes, avec des centaines de chameaux qui traversaient en plus le désert, le Sahara oriental, celui qui, même à l'époque, ne connaissait ni route, ni tourisme, ni étrangers, qui était resté totalement à l'écart et qui me fascinait pour ça et qui était en même temps traversé par le Nil. Donc dans ma décision de l'époque, à 23 ans, de vivre une histoire personnelle avec ce fleuve et les hommes qui l'habitent, en partant de la source du Nil, au mont Kikizi, au Burundi, et en rejoignant Alexandrie, seul et à pied, le désert faisait partie de ça et je ne le connaissais pas et je le découvrais. Et c'était fondateur simplement parce que cette découverte du désert dans sa réalité, celui de l'homme, avec ses caravanes, sans mécanique, sans machine, sans moteur et sans bruit, dans sa dimension réellement métaphysique a été pour moi un choc très violent.
Ouais. On lit très bien, on sent très bien cette fascination qu'il y a pour le désert. On raconte un tout petit peu, parce que c'est vrai que c'est le désert qui est le cœur de ce choix
que j'ai mis dans ce livre.
Vous arrivez au marché de Chameau d'Omdurman, depuis lequel justement partent les caravanes. Vous essayez de convaincre les caravaniers de vous emmener avec eux. En vain, vous y restez quasiment 3 semaines. Et puis finalement, vous rencontrez un vieux chamelier, Souleymane. C'est lui
Absolument,
qui va vous emmener.
Oui. Alors, c'était 3 semaines assez désespérantes. J'étais déjà assez fatigué depuis, il y avait au moins 6 mois que j'étais parti du mont Kikizi, après avoir traversé le Kenya, enfin des mois de marche, de pirogue, etc. Et là, d'un seul coup, dans cette fascination du désert qui est devant moi, personne ne veut de moi, simplement parce que je suis trop jeune, pas parce que je suis français, mais parce que je suis trop jeune, que je connais pas le désert et que ces caravanes sont les caravanes de contrebande et on ne s'y adhère pas, on ne s'y agrège pas comme ça. Et j'ai donc dû d'ailleurs acheter un chameau et faire le contrebandier moi-même. Et dans les semaines qui étaient là, il y avait ce chamelier, Souleymane, un des hommes, une des rencontres déterminantes de ma vie, qui a dû avoir un peu de compassion pour moi, pour ce jeune garçon qui voulait partir et que personne n'acceptait. Et qui m'a dit, toi, d'accord, ok, si tu es prêt à endurer ce qu'on va endurer, on t'apprendra et tu viendras avec nous. Et ça a été une révélation de la gentillesse de ce chef de caravane et des caravaniers qui allaient être avec lui et qui sont devenus un groupe de gens avec qui, non seulement je ne partageais pas simplement un voyage et les difficultés, mais carrément une communauté de destin pendant un certain temps. Et ça a été vraiment formidable. 2 jours après, j'avais mon chameau, Simoun, équipé de pieds en cap à une époque.
Et d'ailleurs, vous réalisez combien... Il y a une interdépendance complète entre le chameau et sa monture.
Oui. Ouais. Moi, le Dibou au chameau, j'y connais rien. Ouais. Mais rien du tout. Sur cette grande bête, je vais tout apprendre. Ils vont tout m'apprendre. Et dans les difficultés ensuite de la fin sur toute cette caravane, les 2 dernières semaines de traversée du Batan El Hadjar, le ventre de la pierre.
Le désert dans le désert.
Le désert dans le désert. 2 semaines de traversée juste avant d'arriver en Égypte. Je vais découvrir que sans mon chameau, je ne suis rien, mais vraiment rien. Et que le chameau tout seul dans le désert, il aura des problèmes là où on l'a jeté et mis. Et que donc, il y a une communauté comme avec un cheval ou un chien. Il se passe quelque chose d'assez phénoménal et on devient pote, quoi. Et je vais devoir, comme les autres, revendre mon chameau en Égypte pour continuer jusqu'à Alexandrie. Mais je vais être marqué par ces 1200 km à chameau et l'équipe de chameliers qui est là. Et si ce qui m'intéresse profondément dans les déplacements géographiques, ce qu'on appelle les voyages, je dis ça pour pas parler de tourisme, ce sont les rencontres
humaines.
On peut en parler du tourisme, mais c'est vraiment autre chose. On se déplace beaucoup de nos jours, hein, mais plus que jamais, et il y a de moins en moins de voyageurs. Les rencontres humaines, et je suis bien d'accord avec vous, sont au cœur de tout cela. Un jour, on m'a dit, par exemple, mais t'es jamais allé vraiment dans le Grand Nord, le Pôle Nord, le Pôle Sud, les machins. Pourquoi ? Et à la fin, j'ai compris que c'était parce qu'il n'y a personne. Et que s'il n'y a pas de gens, ça m'intéresse moins que s'il y a des gens. Cela dit, c'est des espaces formidables. Et là, ce que je vais vivre avec les chameliers, au-delà de la découverte du désert, de sa propreté, de son silence ou de ses bruits de caravanes qui traversent le silence du désert, de sa poésie, de son esthétique, de la capacité qu'on a dans le désert à se ressourcer en soi-même. Là, il n'y a pas de conspiration contre votre vie intérieure. Et à l'époque, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Vous êtes dans une grande et belle aventure. Et avec des hommes qui, franchement, je le découvre à ce moment-là, ces chameliers, ces soudanais, sont des gens formidables.
D'ailleurs, vous avez essayé de les retrouver.
Alors, j'ai pendant des années, alors, ça m'a tellement marqué que l'année suivante, je suis retourné au Soudan. J'ai traversé les déserts du Darfour, du Kordofan, avec ma propre petite caravane. Maintenant, je savais me servir d'un chameau. Je parlais pas trop mal arabe soudanais. J'ai continué et je les ai cherchés partout. Cette année suivante et les années d'après. Puis après, il y a eu la guerre d'Afghanistan qui m'a entraîné ailleurs. Je suis revenu jusqu'en 92-93 pour essayer de les retrouver. J'ai jamais eu de leurs nouvelles, mais c'était de vrais chameliers, de vrais hommes libres. Ils ne cessaient de parcourir le désert avec leur caravane. Ils aimaient cette liberté, cette précarité des entreprises humaines, des difficultés que représentait chaque caravane. On n'était jamais sûr que ça marcherait, qu'ils vivraient avec ça. Mais ils avaient du désert une dimension qui était la mienne, que moi je découvrais, qui était celle, bon sang de bonsoir, quel espace de liberté. Et là-dedans, ni Dieu ni maître en quelque sorte, plutôt Dieu quand même pour eux qui étaient musulmans, mais à tout le moins, on n'est pas gouverné par d'autres hommes, mais que par nous-mêmes et par la nature qui nous environne. C'est elle qui donne les contraintes, on les accepte avec humilité, on est capable de s'y adapter, Et c'est de cette manière qu'on est libre. Et ça, c'était une découverte formidable. Mais je n'ai jamais eu de leurs nouvelles. C'était il y a longtemps.
Et vous le regrettez, parce que j'ai l'impression, quand je vous lis, que je regarde les documentaires, les différents documentaires que vous avez réalisés, que vous avez, alors peut-être pas une obsession, mais qu'en tout cas, vous avez une attirance pour retrouver les personnes que vous avez déjà rencontrées. 1999, au cœur de la forêt indonésienne, sur l'île de Souberu, vous rencontrez la tribu indigène des Sakudai, Roro, Galuareo, Raiba, et 15 ans plus tard, vous y retournez. Écoutez, extrait.
La dernière fois que tu es venue, j'étais jeune. Et maintenant que tu reviens, je suis vieille. Regarde mes dents. Et elle, c'est ta fille.
Nathalie. C'est ma fille.
Grégory.
Valérie.
Je ne sais pas quoi dire.
Arne, Vladimir, Dominique, ils t'envoient leurs salutations.
J'ai fini par me marier. Ça a duré quelques jours seulement. J'étais trop paresseuse pour prendre soin d'un mari. C'est pour ça que je suis revenue. Oui, je me souviens. Tu as le même que moi. Quand on se rencontrera à nouveau quelque part, si jamais je ne me souviens pas de toi, montre-moi ton tatouage.
Voilà, extrait de Raiba et ses frères chroniques du clan des Sakudai. Vous aimez bien retourner sur les lieux que vous avez déjà visités, retrouver ces vieilles connaissances. Pour quelle raison? Parce que il y a toujours ce risque quand même d'altérer le souvenir qui est forcément bon.
Oui. Et en même temps, il y a ce qui m'intéresse dans le tragique de la vie, c'est le destin des gens. Qu'est-ce qu'on devient, nous-mêmes et les autres? Qu'est-ce qui leur arrive? Ça me fascine. Ma curiosité est toujours poussée vers qu'est-ce qui est arrivé à ces gens que j'ai aimé, qu'est-ce qu'ils sont devenus alors qu'ils sont à l'autre bout du monde. Donc que ce soit avec les Papous, avec les Sakudai, comme dans Raiba et ses frères, avec les Sa de l'île Pentecôte, les Youb d'Amazonie, sans parler même des Afghans, des Kurdes et des autres, j'aime bien inscrire les choses dans le temps long. Évidemment, il y a des choses qu'on peut faire instantanément, on tourne la page, on oublie. Mais en vérité, à mes yeux en tout cas, tout mettre dans ce que l'on fait, surtout si l'on cherche dans sa vie à épuiser le champ du possible, comme disait Pindare, poursuivre les choses, poursuivre les aventures, les amours, les rencontres, les amitiés que l'on a, sans jamais y mettre fin, jusqu'au bout. Tant qu'on a, jusqu'à son dernier souffle, c'est quelque chose qui, moi, me fascine. Donc, régulièrement, je me demande, Raiba, où est-ce qu'il en est, là, dans sa grande Ouma?
Et alors, où est-ce qu'ils ont fait?
Ben, j'espère qu'il a reconstruit
est-ce
la Ouma maintenant,
il y a 15 ans.
Mais je suis retourné encore il y a 3 ans, Raiba et ses frères, c'est fait après. Et je retournerai régulièrement. Parce que j'aime suivre le destin des gens que j'aime bien. Voilà.
Et est-ce que leur vie a changé?
Ah, profondément. Vous savez, aujourd'hui, la toute première fois, je suis allé chez les Pygmées, par exemple, j'avais 20 ans. Les Youb d'Amazonie colombienne 21, et ainsi de suite. Je n'avais pas du tout conscience d'une chose, c'était que peut-être j'allais être un des tout derniers à vivre avec ces gens-là tels qu'ils sont réellement. Et que j'allais en fait assister, sur 40 ans au moins, à la fin de ces peuples. Alors pas une fin forcément physique, quoique pour certains, mais en tout cas dans la transformation totale de leur culture. Leur destruction complète, ou leur adaptation plus ou moins heureuse. Et selon les pays, les endroits, ce sont tous des peuples extrêmement isolés. Il faut des mois pour y aller, c'est pas... Bon. C'est plus ou moins heureux. Ils arrivent plus ou moins à comprendre ce qui leur arrive. Le monde extérieur est plus ou moins présent, plus ou moins agressif. Chaque fois, ce sont des cas particuliers, mais c'est assez fascinant, en réalité, de voir comment ça se passe. Mais je n'aime pas trop, finalement, aujourd'hui, cette idée. Je suis un des derniers témoins de tout ça, parce que j'aurais aimé ne pas être du tout un des derniers témoins et que quelque chose continue chez eux dans leur identité propre et surtout l'expression, grâce à leur identité, de leur liberté. Et je n'aime pas voir certains transformés d'animaux sauvages qu'ils étaient au sens noble du terme en animaux domestiques.
Vous êtes un conservateur?
Voilà. Surtout pas, mais en tout cas... Il y a des choses, vous savez, je l'ai écrit dans mon manifeste politique d'il y a 3 mois, à combattre. Il y a des choses qui ne doivent pas changer et des choses qui doivent impérativement changer. Ce n'est pas tout l'un ou ce n'est pas tout l'autre. Mmh. Et c'est là où on pousse le curseur, que l'on peut dire conservateur ou progressiste. Ce n'est pas très intéressant en ce sens-là. Pour moi, la possibilité pour ces gens de conserver, hein, conserver leur culture, s'ils le souhaitent, pourquoi pas. S'ils veulent la faire évoluer, progresser vers autre chose, bien évidemment, pourquoi pas. Mais que ce soit par leur propre choix et non pas par l'imposition extérieure
des choses. Tout est la question du choix, évidemment.
Voilà. Et donc, la question conservée ou pas se pose uniquement à ce niveau-là.
Il va être question aussi de retrouvailles avec vous, Hans Brunswick. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont plusieurs qu'on pourrait peut-être faire rentrer dans ce qu'on appelle la littérature de voyage, puisqu'ils sont liés en tout cas à des longs séjours en Palestine, en Russie, Bienvenue en Palestine, on va en parler, la Sibérie, les eaux glacées du Belmore Canal. Ce sont des ouvrages qui tiennent à la fois du reportage, de la chronique, de l'essai. Dans Bienvenue en Palestine, par exemple, on en parlera, vous étiez installé plusieurs mois à Ramallah pour comprendre ce que veut dire vivre sous occupation israélienne. En Russie, il s'agissait d'aller sur les traces du communisme, là aussi, pour voir ce que signifie finalement le communisme, en tout cas comme expérience vécue. Et dans votre plus récent ouvrage, Voyage au pluriel avec l'absente, qui est paru chez Actes Sud, il s'agit d'une enquête sur les traces de votre mère qui a disparu quand vous aviez 8 ans. Petite lecture, le début du chapitre 6, extrait.
Pour te connaître, chère maman, je marche dans tes pas. Petite poussette têtue, la vérité serait plutôt que je m'offre avec toi un voyage d'agrément. Je t'écris du Portugal, avec face à moi l'Atlantique. Il fait grand beau aujourd'hui, à Foz do Areio, et je regrette bien qu'en mai 1942, tu n'aies connu ici que des jours de pluie. La plage est presque déserte, car la saison touristique ne commencera qu'à la mi-juin. Je picore de petits coquillages pimentés, dans le genre bigorneau, qu'on sert ici avec la bière. Au sifflement continu du vent, qui se glisse entre les planches disjointes de la terrasse, s'ajoute celui plus sporadique, des cannes à pêche lancées par le patron du bar dans le lagon bleu.
Voilà le tout début du chapitre 6. Lecture par Romain de Bec de Lièvre, qu'on remercie. Votre livre revient, Anne Brunswick, sur les traces de deux femmes, Léa, votre grand-mère, et sa fille Françoise, votre mère, donc partie sur les routes d'Europe pour échapper au nazisme. Peut-être que dans votre cas, cette expérience fondatrice qu'on évoquait tout à l'heure, bien, c'est celle-ci, elle est en tout cas dramatique, c'est la mort de votre mère en l'occurrence. Et l'aventure, ou les aventures, elle consiste à retrouver la trace du passage de votre mère sur Terre. Vous êtes rendu sur un certain nombre de lieux un peu symboliques, là au Portugal, où elle est passée avant d'aller en Angleterre, dans un hôpital de Londres où elle travaillait pendant la guerre. Qu'est-ce qui vous a poussé, d'ailleurs relativement tard, à enquêter sur la vie de votre mère, et pourquoi tout ce temps, finalement, avant d'affronter cette histoire ?
Merci de la question. J'ai peut-être mis 40 ans à écrire ce livre, puisque ma mère était morte en 59, et j'entreprends l'écriture de ce livre bien après, parce que la mort de ma mère était un sujet tabou dans ma famille. Et il m'a fallu très longtemps, d'abord pour comprendre ce qui lui était arrivé, et ensuite pour me dégager moi-même de ce tabou. Après, j'entreprends ce portrait en creux, ce portrait d'une absente, par le moyen du voyage, parce que c'est celui qui me vient le plus naturellement. Elle est née à Bruxelles, elle arrive à Paris pendant la guerre, elle est rattrapée par l'occupation nazie. J'ai d'ailleurs gardé une collection des faux papiers de ma famille, je suis très familière de tout ça. Elle franchit la ligne de démarcation et je suis allée me promener sur la ligne de démarcation pour voir à quel endroit exactement, avec ma grand-mère, elles avaient franchi cette ligne en Touraine. Et puis je continue le voyage au Portugal, où il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de gens, notamment des juifs, qui ont transité en espérant avoir un visa qui leur permettrait de franchir l'Atlantique.
Si je vous entends, évidemment c'est l'histoire de votre mère, mais c'est aussi l'histoire avec un grand H de manière plus générale. Vous vous plongez dans la réalité d'une famille juive qui, comme bien d'autres malheureusement, est prise dans les turbulences de l'Exode, dans les turbulences de la guerre. Vous allez fouiller votre arbre généalogique, dont les racines vont puiser un peu dans les quatre coin d'Europe, notamment du côté de la Lituanie, dont vous refaites en tout cas une partie de l'histoire récente. C'est une histoire personnelle, d'accord, mais c'est aussi une histoire contemporaine de l'Europe, d'une certaine manière.
Bien sûr, parce que mon histoire personnelle est prise complètement dans l'histoire de l'Europe. Mon père est né allemand, je suis la première génération qui soit née en France, et il fallait que je fasse un choix entre toutes ces origines. J'ai plutôt penché du côté de ma mère, c'est-à-dire de l'Empire russe que ma famille avait quitté à la fin du 19e siècle. J'ai appris le russe très tôt, à l'âge de 10 ans. Et bon, je continue à le parler mal, mais enfin, les gens me comprennent. Et c'est vrai que j'ai eu envie, y compris de faire les voyages que ma mère n'avait pas fait, et de lui dire, ben, de ton vivant, on ne pouvait pas franchir le mur. Et tu, certainement, si tu avais vécu plus longtemps, tu l'aurais franchi et tu aurais été voir la patrie de tes grands-parents. Et moi, j'y suis allée, dans la patrie des Chereshevski et des Ségal, une patrie où il n'y a plus du tout de juifs aujourd'hui.
Refaire un petit peu cette histoire contemporaine de l'Europe, est-ce que ce n'est pas aussi un réflexe de journaliste ?
Je ne crois pas.
Celle que vous avez été pendant des années.
Et que je continue éventuellement à être de temps en temps. Là, je ne crois pas parce que je pense que personne ne m'aurait envoyé dans des bleds aussi perdus et où il ne se passe rigoureusement rien que ces villages ou ces bourgs de Lituanie où je suis allée.
Il n'y a pas quelque chose de l'enquête journalistique dans votre livre aussi
Je ne crois pas parce que vraiment il ne se passe absolument rien là-bas et c'est vrai que j'ai envie éventuellement de savoir s'il existe des traces de ces communautés juives qui étaient très importantes, qui étaient même majoritaires jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Si vous voulez, ma famille n'avait aucune nostalgie de l'Empire russe. Ils n'étaient même pas formellement russes puisqu'ils étaient considérés comme une minorité nationale. Juifs dans ce pays-là, c'était une nationalité. Ça allait d'ailleurs rester fort longtemps. Et quand ils ont quitté ce pays où ils vivaient à la fois une crise économique et des pogroms, ils n'ont jamais eu la moindre nostalgie de l'Empire russe. Donc personne dans la famille que j'ai connue en France ne parlait un mot de russe ou alors vraiment très peu de choses. On savait que, voilà, on avait un samovar et on savait qu'il fallait mettre de la confiture dans le thé.
Au départ, Anne Brunswick, vous êtes seulement journaliste. Puis, quand vous avez une quarantaine d'années, vous voulez faire autre chose qu'écrire des articles. Pourquoi ce besoin ? Qu'est-ce que finalement vous ne pouviez pas faire dans vos articles que vous avez trouvés dans les ouvrages qui suivirent ? Et finalement, pourquoi avoir voulu aller au-delà de ce métier de journaliste ?
Alors, je n'ai jamais été seulement quoi que ce soit. j'ai été professeure de lettres.
Essentiellement, alors.
En même temps que militante révolutionnaire, en même temps que photographe, etc. Ça ne m'est jamais arrivé de faire une seule chose à la fois. Et aujourd'hui encore, j'ai un pied dans le journalisme, certainement un pied dans la littérature, mais je travaille aussi dans le cinéma documentaire comme scénariste. Et j'en oublie sûrement, voilà.
Mais vous avez mis du temps pour mettre le pied dans la littérature.
Oui, parce que j'ai été élevée dans l'idée que les femmes n'avaient rien à dire et qu'elles pouvaient juste transmettre, être enseignantes ou journalistes, mais qu'elles n'avaient au fond rien à dire de particulier. Et donc il a fallu que je me dégage de cette idée que j'avais profondément intériorisée.
Et qu'est-ce qui vous a permis de vous dégager de cette idée précisément ?
Ah, mystère, je crois que c'est...
Une expérience aussi peut-être ?
Alors une expérience...
La Palestine, pourquoi pas ? Parce que quand vous arrivez en Palestine, vous n'aviez pas prévu au départ d'écrire un livre.
Non, j'avais rien prévu du tout. Je ne savais même pas si en tant que juive, je serais acceptée par les Palestiniens. Je ne connaissais personne, je n'étais mandatée par personne. Et donc je ne savais pas du tout ce qui allait en sortir. Et puis je me suis rendu compte très vite que j'ai été adoptée par mes voisins. Il se trouve que 8 jours après mon arrivée, on s'est trouvé sous couvre-feu. Et moi, je louais un appartement qui était assez grand et surtout qui avait un très grand frigo. Et mes voisines avaient immédiatement fait d'énormes provisions parce que le dernier couvre-feu avait duré 6 semaines. Donc elles ont foncé dans les épiceries du quartier et elles ont fait des tas de provisions. Et donc elles en ont stocké beaucoup chez moi. Et donc elles entraient, elles sortaient ou c'était leurs enfants qui entraient et sortaient. Et leurs enfants en profitaient pour me raconter leur vie. Il y avait beaucoup de choses qu'ils ne pouvaient pas dire en famille, mais qui pouvait me raconter à moi. Et donc, j'ai fait du journalisme ou de l'écriture statique du voyage dans mon appartement, puisque de toute façon, on était sous couvre-feu. Donc, il y avait une impossibilité d'aller ni à Naplouse, ni à Hébron, ni à Bethléem. Voilà.
Et pourquoi ce choix de s'immerger dans ce monde, en l'occurrence Ramallah, qui quand même, a priori, pourrait être assez hostile à l'égard d'une femme juive, sachant que vous n'aviez absolument pas caché votre judéité?
Eh bien, parce que moi, j'ai grandi dans une famille majoritairement sioniste, que je connaissais donc assez bien la version juive de cette histoire, qu'on parlait beaucoup des accords d'Oslo en ce moment, que je voyais qu'ils étaient en train de sombrer dans une nouvelle vague de violence, puisqu'en 2002, il y avait eu une réoccupation de la Cisjordanie. On était sous Ariel Sharon. Et vu d'ici, on ne comprenait pas pourquoi ces accords d'Oslo, ces accords de paix, avaient débouché sur un nouveau bain de sang. Et je me suis dit qu'il n'y avait qu'en allant là-bas que je pourrais au moins entendre le point de vue des Palestiniens pour compléter le point de vue. Tout simplement, j'avais l'impression que je ne connaissais qu'une version de l'histoire, que grosso modo, en Europe et en France, on ne connaissait que cette version de l'histoire, et qu'il fallait... J'avais pas du tout l'idée, j'étais pas du tout pro-palestinienne, mais j'avais l'idée simplement qu'il fallait écouter la voix des autres.
J'étais... Et vous aviez ce besoin aussi de changer de point de vue, parce que par ailleurs, le point de vue israélien, vous l'aviez eu. Vous avez fait un voyage assez jeune en Israël. D'ailleurs, vous disiez, vous aviez été assez surprise, pour pas dire carrément choquée, de la manière dont on traitait, dont on parlait des Arabes.
Ma grand-mère, elle travaillait
pour la... Vous aviez dit d'ailleurs, pardon de vous couper une dernière fois, et ensuite je vous laisse finir, vous aviez dit que vous aviez l'impression, en parlant d'Israël, qu'il s'agissait d'un pays qui n'était pas complètement rentré dans la modernité, de ce point de vue-là.
Bon, c'est-à-dire que c'est un pays qui est fondé sur l'idée qu'il faut rester entre juifs. Et moi, je suis très attachée à la mixité, donc je voyais pas du tout l'intérêt de vivre dans un pays où il n'y avait que des juifs. À part ça, ma grand-mère était une militante sioniste, je dirais pas acharnée, mais quand même, à 14 ans, comme tous mes frères et sœurs, j'ai été envoyée 2 mois en Israël et j'ai été endoctrinée jusqu'au bout des ongles. Voilà. Et je n'ai jamais adhéré à cette idée-là. À cette époque-là, Nasser était vu comme un nazi, comme un Hitler. Les armées arabes étaient considérées avec le plus grand mépris. À cette époque-là, on ne parlait pas de Palestiniens, on parlait tout simplement d'Arabes. Et on niait complètement le fait qu'ils avaient été chassés de leur terre. On considérait qu'ils étaient partis d'eux-mêmes. Enfin, voilà, il y avait une version qui était vraiment la version israélienne. J'ai eu envie, mais sans avoir formalisé ça ni théorisé, j'ai eu envie de tout simplement avoir le point de vue de l'autre. Et je dirais que tous mes voyages sont fondés là-dessus, c'est-à-dire l'envie d'entendre un point de vue qui n'est pas le mien au départ, mais tout simplement pour élargir. Donc peut-être que mes voyages sont philosophiques, au sens où j'ai envie de mettre en question mes certitudes, mes aveuglements. Voilà.
Et alors, comment justement ce point de vue a-t-il été accueilli du côté israélien? Parce qu'effectivement, dans votre livre, vous livrez ce quotidien extrêmement difficile des Palestiniens qui vivent sous occupation israélienne. Vous recueillez la parole, le témoignage d'un certain nombre de personnes, avec d'ailleurs une grande rigueur journalistique. Là, je reprends cette casquette. Comment votre livre, à l'époque, est accueilli par les Israéliens et peut-être par les Juifs de manière générale, en tout cas ceux qui vous entourent?
Très mal. Très mal, je suis considérée comme tout simplement traître, ou alors comme il y a une catégorie qui s'appelle les juifs qui ont la haine d'eux-mêmes. Voilà. Donc d'autres ont fait l'expérience avant, comme Anna Arendt qui a subi un opprobre total. Les amis juifs qui avaient chroniqué très favorablement mes 2 livres précédents n'en parlent pas, plus que d'ailleurs des articles agressifs. C'est tout simplement le silence. Je ne suis pas invitée dans les radios juives pour parler de ce livre. Il n'y a tout simplement pas de débat. Ce qui les choque le plus, c'est pas tout ce que je raconte sur la Palestine, c'est le fait que j'ai été accueillie en définitive, c'est-à-dire ce présupposé fondamental qu'ils ont que les Arabes sont antisémites. Et ben, je dis que j'ai vécu parfaitement normalement 4 mois à Ramallah sans avoir jamais été insultée, sans jamais avoir été confrontée directement au moindre antisémitisme. Et ça, c'est vraiment insupportable.
Je voudrais qu'on évoque peut-être la question de l'engagement, l'engagement politique, mais l'engagement tout court, ce qui nous permettra aussi de rejoindre Patrice Franceschi, parce que là aussi, il est question bien sûr d'engagement. Mais Anne Brunswick, assez jeune, vous avez baigné dans l'engagement politique. Vous avez milité dans différents mouvements courants de gauche, contre la guerre au Vietnam, pour l'indépendance de l'Algérie. Vous avez même rejoint le Parti communiste.
À un moment, oui. Ben, j'ai toujours baigné dans ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche de la gauche. Enfin, autrefois, on appelait ça la gauche, mais comme la gauche a viré assez à droite, donc maintenant, on appelle ça la gauche de la gauche. Oui, ça a toujours été ma famille politique, avec différents engagements. Je crois que mon premier date de l'âge de 15 ans. Donc, si j'ai été très politisée...
Ce qui est assez cocasse quand on sait que vous êtes aussi une spécialiste du goulag.
Oui, alors effectivement, je suis peut-être la seule gauchiste spécialiste du goulag, mais c'est aussi par ce désir que j'ai toujours eu de travailler contre mes certitudes, quoi, de mettre en question mes préjugés. Donc oui, je suis une spécialiste assez informée du goulag.
Vos préjugés, justement, il y a peut-être un point sur lequel vous avez eu du mal à vous engager, en tout cas pendant un temps. Peut-être que désormais, c'est une chose que vous assumez plus facilement, mais vous dites que vous n'avez, en tout cas quand vous étiez jeune, vous aviez eu du mal à tenir, à soutenir le combat féministe. Dans les années 60, 70, vous aviez du mal. Et puis aujourd'hui, vous l'assumez davantage. Qu'est-ce qui vous posait problème et qu'est-ce qui a fait que ce combat-là, vous l'assumez désormais ?
Alors, quand j'étais à Nanterre en 69, 70, il y avait effectivement un mouvement féministe très actif. Ça s'appelait le Torchon Brûle, par exemple. Mmh. Et je suis rentrée une fois dans une réunion du Torchon Brûle. Je n'ai vu que des femmes qui disaient le plus grand mal des hommes. Et moi, j'étais pas en guerre contre les hommes. Il y en avait que je trouvais tout à fait sympathiques. Et puis d'autres, effectivement, j'étais pas consciente du fait qu'il y avait une domination massive de, voilà, donc du féminin. Et puis le féminisme à l'époque était très dominé par les homosexuels. Et moi, je suis désolée, mais je suis hétéro. Voilà, donc je me reconnaissais pas dans ce féminisme-là. Par contre, oui, bien sûr, la lutte pour la légalisation de l'avortement ne m'a jamais posé aucun problème. Mais toute ma vie, j'ai voulu être non pas acceptée dans le monde des femmes, mais l'égale des hommes. Et peut-être même supérieur. Donc, mon combat, ça a été d'être acceptée dans des mondes d'hommes. J'ai été rédactrice en chef. Je me suis trouvée souvent dans des réunions où il n'y avait que des hommes. Et voilà, ça a été plutôt ça, ma tendance. Mais c'est vrai que, après mon voyage en Palestine, je me suis rendu compte que les femmes m'avaient raconté des choses plus intéressantes que les hommes. Les hommes m'avaient souvent raconté des choses qu'on peut lire dans le journal, disons, on va dire un peu rapidement la langue de bois, et que les femmes me racontaient des expériences beaucoup plus vécues, incarnées. Elles m'expliquaient comment on fait pour élever des enfants sous l'occupation, comment on fait pour se projeter dans l'avenir, comment on fait, par exemple, les enfants sortent de l'école à 4h30, 5h, des garçons de 13 ans, 14 ans, mais aussi des filles, et ils ont envie de jeter des pierres sur les soldats israéliens. Et c'est tout à fait naturel, mais la mère tremble de trouille parce que le fils va se retrouver au commissariat dans le meilleur des cas. Il peut se trouver aussi en détention préventive pour une durée illimitée. Et elle veut protéger ses enfants. Elle leur dit « Tu feras de la résistance, mais quand tu seras grand, pour l'instant, je voudrais que tu ailles jusqu'au bac. » Voilà. Et ça, aucun homme ne me l'a dit.
Alors, la résistance, l'engagement, je me tourne vers vous, Patrice Franceschi. Votre engagement, il a parfois été très poussé, au point, je le disais tout à l'heure, de prendre les armes. Ce fut le cas lorsque vous rencontrez ce chef afghan, Amin Wardak, en rébellion contre l'invasion soviétique. Comment expliquez-vous cet engagement et quelles sont, de votre point de vue en tout cas, les limites de cet engagement ?
Un engagement est un engagement. A priori, il n'a pas de limite. Sinon, ce n'est pas un engagement. On ne fait pas les choses à moitié. Ça, c'est pour répondre directement à la question. Pour le reste, moi, par exemple, je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique. Je me suis toujours prémuni de toute obligation de penser, et on va automatiquement trouver ça dans un parti. Et mes engagements, ils ont été ceux de conviction concernant une seule chose qui m'intéresse, et qui est pour moi consubstantiel à l'aventure et à l'écriture, et qui est simplement vivre libre. Et je n'ai même pas parlé de liberté tout court, pour ne pas entrer dans des difficultés sémantiques. Vivre libre. Quand je rencontre Amin Wardak, on est en 1979-80, c'est le début de l'invasion soviétique. Qu'est-ce que je vois ? J'ai 26 ans, je vois simplement un peuple, tout petit, qui vient d'être envahi par une superpuissance. Et qui le fait avec une violence et une brutalité que le temps autorise à l'époque, tout simplement parce qu'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas encore Internet, il n'y a rien de tout cela. Qu'est-ce qui me pousse ? Je vois des gens qui se battent pour leur liberté avant toute chose, parce qu'ils veulent préserver leur famille, leur culture, leur identité, leur avenir, ce qu'ils sont. Et je ne me permets pas de les juger, je les prends tels qu'ils sont, tels que la nature et les choses me les donnent, et j'ai envie de les défendre. Et je pense que toute sa vie, il faut défendre les gens qu'on aime. Quoi qu'il arrive, individuellement ou collectivement. Ensuite, j'ai un tropisme guerrier absolument assumé. Et mon tempérament, quelque peu révolutionnaire, ne m'interdit pas d'utiliser, à mes yeux, la violence collective quand il n'y a pas d'autre choix. C'est le cas ultime. Et pour eux, il n'y avait aucun autre choix. Et aujourd'hui, avec mes amis kurdes de Syrie, que voulez-vous qu'ils aient comme autre choix que de combattre Daesh qui les a attaqués, si ce n'est de se soumettre ? Par conséquent, il n'y a pas, à ce moment-là, d'ambiguïté. quand j'étais avec les Afghans, dans les années 80, 81, 82, et que je voyais cette guerre, ce que faisaient les Soviétiques avec leur superpuissance contre des gens qui n'avaient rien, en tout cas au départ, je me posais la question, mais si j'avais eu cet âge-là, 20 ans, en 1940 en France, avec l'invasion nazie, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dit, je m'engage, et si je le fais, je mets une limite, ou je m'enfuis, j'émigre aux États-Unis, ou je collabore, ou je fais du marché noir, qu'est-ce que j'aurais fait? Et là, l'évidence, pour moi, était absolue, je serais entré dans la résistance, et j'aurais pas mis de limite au combat à mener pour libérer la France des nazis à ce moment-là. Voilà, et donc, ces gens-là étaient devenus mes frères, mon peuple, j'y étais, je me sentais en accord total avec eux, et donc je me sentais résistant parmi des résistants. Et comme je ne veux pas faire les choses à moitié, j'avais dit à Amine, écoute, je garderai ma vie à moi, bien entendu, mais en tout cas, je resterai là, et je vous soutiendrai à ma modeste mesure, on n'est jamais qu'un individu dans une guerre immense, mais jusqu'à la fin.
Y compris les armes à la main.
Et bien entendu, puisque je ne veux pas mettre de limite à ces choses-là, sinon on triche avec les autres et avec soi-même. Et donc je suis resté jusqu'à la libération de Kaboul en 1992. Après quoi, je me suis retiré d'une chose qui était terminée, d'autant plus qu'une autre guerre allait commencer, guerre civile et puis tout ce qu'on a connu par ailleurs, même si je vois toujours Amin Nouravak, si je suis toujours avec les Afghans, mais c'est dans une autre dimension qui est plutôt d'accompagner... quelque chose d'assez terrifiant aujourd'hui. C'est un échec, cette guerre.
Mais pourquoi est-ce que vous sortez? Parce que vous avez raison de le rappeler. Enfin, le conflit ne s'est pas arrêté.
Alors, c'est
qu'il a malheureusement poursuivi.
Il a pris d'autres formes,
mais il ne s'est jamais arrêté.
Il ne s'est
pourquoi
jamais
sortir
arrêté
de l'engagement?
Parce que l'engagement, à l'époque, c'était celui d'une domination, d'une invasion par les Soviétiques. C'était comme ça. Mais ça aurait été n'importe qui les aurait envahis, j'aurais fait la même chose. Soyons bien précis sur ça. La guerre était gagnée à ce moment-là, je n'avais plus aucune raison. Mes engagements étaient tenus. Les Afghans étaient libérés. Plus aucun étranger en Afghanistan en mai 92. Le problème, ça a été eux, qui n'ont pas réussi à gérer leur victoire. Et là, sont revenus comme des démons, tous les problèmes religieux, ethniques, culturels, voilà. Et ça a été un chaos absolu. Après quoi, une autre invasion, voilà, 2001, les Américains, et mes invasions avant, des Arabes, d'Al-Qaïda, etc., qui sont venus aussi, et des Pakistanais, et des Iraniens, bref. Ils sont tombés aux mains des puissances régionales, puis internationales, dans une autre guerre, mais qui ne me concernait plus directement. Et puis dans un tel chaos, je ne reconnaissais plus l'Afghanistan que j'avais connu, et les gens ne se battaient plus pour les mêmes raisons, tout à fait. La drogue, par exemple, c'est devenu quelque chose qui a profondément corrompu et les élites et le peuple, et ainsi de suite. Donc, ce n'était plus du tout l'Afghanistan que j'avais connu, et je jugeais à ce moment-là que j'allais continuer à aider mes amis, les Wardaki, bien évidemment, mais pas. Ça ne justifiait plus un tel engagement.
Ouais. Vous continuez à les voir?
Bien sûr. Et Amin Wardaki, j'étais avec lui encore la semaine dernière, il était revenu de Kaboul et il repart. Voilà.
Toujours fidèle à la retrouvaille.
Je pense, oui, une vie, vous savez, c'est très court. Et le peu de temps que la destinée humaine nous donne sur cette terre doit être utilisé à bon escient. Et je pense que les histoires d'aventure, d'amitié, d'amour, on ne doit pas y mettre des fins absolues. Elles doivent continuer, sinon ce n'était pas de vraies histoires. Quelles que soient les formes qu'elles prennent. Et avec Amin Wardaki, ça a pris d'autres formes, évidemment. Mais je suis très fidèle à ce niveau-là.
Patrice Franceschi, j'ai retrouvé une interview que vous aviez donnée il y a quelques années. Vous disiez à propos de l'aventure en général que vous aviez compris deux choses. D'abord que l'esprit d'aventure est démocratique. Chacun peut s'en saisir et l'appliquer à son existence, disiez-vous. Ensuite, que si excitante soit-elle, l'aventure pour l'aventure est un peu vaine. Et qu'il vaut mieux lui donner un sens.
Exact.
Alors, toute la question est là. Et puis on la posera ensuite peut-être à Brunswick. Quel sens avez-vous donné à votre ou à vos aventures?
Alors, sans parler des engagements maintenant, moi je suis un type qui ne peut pas vivre sans but. C'est comme ça. Si je me lève le matin et que je n'ai pas des buts à accomplir, moi je ne vis pas. Les buts que je peux me donner, par exemple, c'est l'écriture. Pour moi, l'écriture est la délivrance même de notre problématique de destinée. Et la fécondité que l'écriture peut permettre de créer quelque chose à partir de rien et qui porte vraiment les valeurs que vous portez vous-même, pour moi, c'est quelque chose qui me rend heureux. Vous savez, quand les gens posent la question du bonheur, je ne parle pas de celle du plaisir qui m'intéresse beaucoup moins. Pour moi, c'est l'adéquation permanente entre ce que l'on pense et ce que l'on fait. Si l'on parvient dans sa vie à ne jamais être en contradiction dans ce que l'on fait avec ce que l'on pense profondément, c'est le vrai secret du bonheur. Et à partir de là, les biens matériels et tout le reste, n'ont plus qu'une importance vraiment très minime. Ce sont des choses assez vaines. Et le sens profond qu'on peut avoir dans sa vie, c'est de parvenir à cette forme de bonheur qui est un combat quotidien, permanent, pour ne jamais rien faire d'autre que ce que l'on pense. Ça, c'est un sens profond de la vie, en étant fécond, en créant, en bâtissant.
Écrivant.
Et en écrivant donc.
Anne Brunswick, est-ce que l'écriture est une chose par laquelle vous avez donné du sens à votre aventure, à vos aventures ?
D'abord, je conteste le mot aventure, sinon aventure intellectuelle. Ouais. Quand je me promène en Sibérie, j'utilise les mêmes moyens de transport que, on va dire, alors pas les riches sibériens qui voyagent à bord de gros 4x4, etc., mais le peuple, quoi, tout simplement. J'utilise des autobus quand il y a des autobus, parfois des taxis collectifs. L'été, on peut emprunter des fleuves. Quand il y a des endroits où il n'y a que des avions ou des hélicoptères dans le très grand nord, eh bien, je prends les hélicoptères. Mais je n'ai jamais eu le sentiment d'être une aventurière, peut-être simplement quelqu'un de curieux.
Et s'agissant de la question de l'écriture, est-ce qu'elle vous permet de donner du sens ?
Évidemment, parce que quand on écrit, pourquoi je reste 3 semaines à Kiev ou à Belomorsk ou à Magadan, des villes où il ne se passe absolument rien, parce que j'ai besoin, sur place, et après ça viendra peut-être aussi à mon retour en France, à écrire les choses, à observer. J'ai effectivement un côté péréquien, c'est-à-dire que je suis capable de m'asseoir à une terrasse, sauf qu'il n'y a pas de terrasse en Sibérie, et à regarder ce qui se passe, et à regarder le rien de ce qui se passe. C'est ça qui m'intéresse le plus, l'absolument rien. Alors, la différence avec, parce que vous avez employé plusieurs fois le mot journalisme, la différence c'est d'abord le temps. Je prends 3 semaines, 1 mois pour comprendre les choses. Je vais sur la route de la Colima, qui est un des endroits où le goulag a été le plus meurtrier. Et je prends le temps à la fois de voir les paysages et de comprendre ce qu'il en reste dans la tête des gens. Et là, je prends un temps fou. Alors, j'ai écrit des livres. C'est vrai que quand on écrit, on est obligé de mettre de l'ordre dans ses idées. Et par exemple, quand j'étais à Ramallah, j'avais tout le temps, puisqu'on était sous couvre-feu, donc j'ai lu Édouard Saïd. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre. Quand j'étais sur la Colima, bah, j'ai lu Yevgenia Ginsburg et Chalamov. Et évidemment, donc ça éclaire. Et d'une manière générale, quand on écrit, on est obligé de mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est sûr. Alors, moi, je n'ai jamais pris les armes, mais je pense que dans l'écriture, on peut dire et on peut faire quelque chose. Et en plus, que ce soit en Russie ou en Palestine, les gens ne m'ont pas dit « aidez-nous en prenant les armes », ils m'ont dit « aidez-nous en menant le combat en Europe ».
En racontant
notre réalité, et aussi parce que nous pouvons avoir une influence. Actuellement, l'Europe se refuse à prendre des sanctions contre Israël, alors qu'il viole le droit international. Vous, comme citoyen européen, vous pouvez faire quelque chose. Les Russes me disent les Européens ne comprennent rien à nos réalités, ils nous considèrent en gros comme des bourrins, des nostalgiques, etc. Venez essayer de comprendre notre réalité. Et je ne veux pas leur donner un blanc-seing surtout, mais je veux essayer de comprendre pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Et a priori, je ne pense pas qu'ils soient plus idiots que nous.
Patrice Franceschi, on parle très régulièrement ici des Kurdes, du Kurdistan, irakien, syrien. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas centré notre échange sur cette question-là, mais je voudrais quand même en dire 2 mots avec vous, parce que Daesh est sur le point de perdre ses 2 fiefs, irakien et syrien, Mossoul et Raqqa. On connaît évidemment votre engagement auprès des Kurdes de Syrie. Je rappellerai cet ouvrage qui avait fait date, « Mourir pour Kobané », qui était paru aux éditions Équateur. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des Kurdes syriens ils pourront tirer profit d'une certaine manière de cette Syrie post-Daesh, selon vous? Est-ce qu'ils vont y parvenir?
Alors, ce post-Daesh, on le leur doit beaucoup. Ce n'est pas quelque chose qui se passe à côté et dont ils vont bénéficier en tirant parti ou en tirant leur épingle du jeu. C'est eux, essentiellement, et je ne parlerai que des Kurdes de Syrie, qui ont payé le prix avec leurs garçons et leurs filles pour en arriver où on en est arrivé, c'est-à-dire la fin de Daesh prochaine. Et c'est un bien pour tout le monde. Ce sont des gens... Et c'est pour ça que je me suis engagé avec eux dès le départ, il y a 5 ans, qui sont remarquables et qui me parlent. Avec eux, je suis dans la même famille. Des gens qui défendent la démocratie, l'égalité homme-femme, le respect des minorités, la laïcité, dans un endroit du monde où, franchement, c'est compliqué à faire et pour lequel il faut payer il faut payer le prix du sang et le payer très cher, contre des adversaires incroyables. Daesh, c'est quelque chose quand même. Malgré tout, ils ont su avec intelligence, en payant le prix, pour défendre leurs valeurs, qui à moi me parlent, voilà, c'est comme ça, et à partir de là, je m'engage, ils ont su en même temps, parce qu'ils savent que la vie et la guerre, ce sont la politique sont les rapports de force, ils ont su être pragmatiques, et pendant toute cette période, se trouver les alliés nécessaires pour pouvoir ensuite gagner. Ils n'ont pas encore gagné sur le plan international, mais en tout cas, que ce soit avec les Russes, ou les Américains, ou les Français, parvenir à un niveau de dialogue très élevé, leur permettant, pendant qu'ils se battaient, d'assurer éventuellement l'avenir, c'est-à-dire la survie pérenne de l'État qu'ils sont en train de constituer.
Mais est-ce que vous pensez qu'ils y sont parvenus? Vous parlez de rapport de force pour le moment. Effectivement, les Occidentaux soutiennent les Kurdes, que ce soit en Irak et en Syrie, peut-être davantage en Irak qu'en Syrie. Mais est-ce que vous pensez qu'ils continueront de les soutenir une fois la menace djihadiste écartée?
C'est l'angoisse, la préoccupation plutôt des Kurdes depuis déjà plusieurs années. Et tandis qu'on se bat à Raqqa, ils négocient au niveau politique ou diplomatique pour l'après-Raqqa. Ils savent très bien que c'est pas après qu'il faut le faire, c'est maintenant. Et ils le font plutôt bien. Nul ne peut dire s'ils y parviendront, mais en tout cas, leurs chances aujourd'hui sont très élevées, parce qu'ils sont parvenus à faire comprendre que c'est pas parce que l'État islamique aura disparu structurellement en tant qu'entité étatique que la guerre avec eux sera terminée. Déjà, ça migre un peu partout, de la Libye à l'Afghanistan, et ça restera au Moyen-Orient. Et qu'ils seront encore, si on sait reconnaître l'autonomie de Rojava, le Kurdistan syrien dans le nord de la Syrie, c'est quand même grand comme trois fois le Liban. Si on sait politiquement et diplomatiquement reconnaître cette entité, comme le Kurdistan irakien est reconnu dans son autonomie, alors ils auront gagné, ils seront pérennes et franchement, ils seront encore le rempart dans la région contre Daesh. Pour nous, comme pour les Américains, comme pour les Russes, comme pour les musulmans, comme pour les chrétiens, comme pour tout le monde. C'est ça l'enjeu dans quelques mois. On verra, mais c'est plutôt bien parti.
Un grand merci à nos deux invités, Patrice Franceschi, dont je rappellerai quelques-uns de ses ouvrages, Avant la dernière ligne droite, Première personne du singulier, ce recueil de nouvelles pour lequel vous aviez reçu le prix Goncourt de la nouvelle en 2015, mais aussi Mourir pour Kobané. Anne Brunswick, un grand merci également d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai vous concernant Voyage avec l'absente, Sibérie, un voyage au pays des femmes, Bienvenue en Palestine, mais aussi bien d'autres. Un grand merci, c'était un plaisir d'échanger avec vous ce matin.
C'était réciproque.
Merci infiniment.
Salut. Merci.
Onze heures passées de 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors hier, vous nous avez exposé l'inquiétude ressentie par de nombreux experts américains face à ce qu'ils considèrent comme le tournant pris par Trump dans la conduite de la diplomatie américaine. Le président américain est accusé de saper l'ordre libéral international d'après-guerre en privilégiant les intérêts américains et en renouant avec le protectionnisme. Trump n'a donc pas de défenseur ?
Si, bien sûr. On aurait tort de jeter la pierre à Donald Trump selon un universitaire américain membre du think tank Hudson Institute. Walter Russell Mead estime que le problème fondamental de la politique étrangère américaine, c'est que les élites qui la conçoivent et la conduisent depuis la fin de la guerre froide n'ont tenu aucun compte de l'opinion publique. Les diplomates ont cherché à élargir toujours plus l'orbite de ce qu'ils appellent l'ordre libéral sur la base d'un consensus partisan démocrate-républicain, en particulier à la faveur de l'effondrement de l'ennemi soviétique. Cet ordre libéral, il avait bien fonctionné entre 1945 et 1991. durant cette période et dans le cadre de la menace que faisait peser l'URSS sur le monde libre, les États-Unis ont aidé l'Europe de l'Ouest à se reconstruire. Ils ont favorisé son intégration, ils ont soutenu la décolonisation du tiers-monde et appuyé son développement. Ils ont poussé à la libération des échanges commerciaux et assuré la libre circulation des mers grâce à leur flotte de guerre. Ils ont encouragé la création d'institutions internationales créatrices d'un droit international reflétant leur propre conception du monde. Bref, ils sont devenus les principaux organisateurs du système international, les véritables architectes de l'ordre international. Mais l'erreur a été de croire que l'Amérique pouvait élargir à l'infini après 91, un cadre bâti dans le contexte des alliances de guerre froide. Surtout, le débat sur les objectifs et les moyens d'une telle stratégie, manifestement trop ambitieuse, n'a jamais eu lieu. Je cite « Les élites étaient pleines de confiance, la fin de l'histoire était arrivée, étendre toujours plus loin l'ordre international serait une tâche facile et qui ne coûterait pas cher. Cela pouvait être effectué sans trop chercher le soutien du public. » Fin de citation. Mais la série d'aventures militaires censées vaincre les résistances à ce projet utopique, Bosnie-Kosovo, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, etc., ont montré que les élites dirigeantes à Washington avaient manqué de prudence. Elles ont surévalué la capacité américaine à imposer l'ordre international. Le public américain, lui, avait compris depuis longtemps, et c'est son inquiétude devant des ambitions mondiales excessives qui explique nombre de ses choix électoraux récents. En effet, les électeurs ont choisi Clinton contre Bush père en 92 à cause de la première guerre d'Irak. Ils ont préféré Bush fils à Gore en 2000 parce que ce dernier apparaissait comme un mondialiste. Et pour la même raison, ils ont élu le prudent Obama plutôt que le va-t-en-guerre McCain. Et ce sont les mêmes causes qui expliquent pour partie le vote Trump de 2016. Car les électeurs ont préféré l'homme qui dit « America first » à une Hillary Clinton connue comme interventionniste libérale et favorable au fameux ordre international américain. D'autant que le monde, entre-temps, est devenu beaucoup plus dangereux qu'en 91. Le Moyen-Orient est en feu, la Corée du Nord menace de prendre l'Amérique en otage, le Venezuela est en proie au chaos, des acteurs para-étatiques inspirés par le djihad sèment la terreur au Moyen-Orient et en Afrique, la Chine installe son hégémonie régionale, la mondialisation marque le pas. Les élites politiques et médiatiques n'ont pas de mots assez durs pour dénigrer la politique étrangère de Trump, conclut Walter Russell Mead, qui admet lui-même qu'elle peut d'ailleurs être regardée comme, je cite, « surréaliste ». Pourtant, c'est une entreprise de diversion, poursuit-il. Elle permet d'éviter d'avoir à se poser les questions de fond concernant la politique étrangère américaine et de faire l'impasse, je cite, sur 25 ans de folie et d'échecs.
Mais n'y a-t-il pas aussi une tendance à surestimer le fameux ordre international libéral lui-même, Brice?
Oui, bien sûr, et c'est ce qu'écrit d'ailleurs Andrew Bacevich, professeur de relations internationales à Boston et auteur de nombreux ouvrages consacrés à ce sujet. Il se moque de tous ces fameux confrères qui, tels Robert Kagan ou le général en retraite Petraeus, décrivent le président américain comme le destructeur de l'ordre libéral international. Ils prétendent que Trump tournerait le dos à l'exceptionnalisme américain, qu'il foulerait aux pieds le grand objectif bipartisan d'un ordre mondial fondé sur des règles acceptées par tous. Mais je cite « Mais cette interprétation fait l'impasse sur une seule chose, l'histoire des États-Unis. Que font tous ces beaux idéalistes de détails tels que les coups d'État fomentés par les Américains contre Mossadegh en Iran, Allende au Chili, du soutien à des régimes dictatoriaux tels que ceux que dirigèrent la Turquie, la Grèce, les Philippines, l'Égypte ou le Brésil, des guerres lancées illégalement et sous des prétextes frauduleux. Tout cela ne témoigne guère d'un attachement sans faille à la règle de droit, à l'ouverture, au libéralisme et aux droits de l'homme. Non, non, et je cite à nouveau mon auteur, c'est là le comportement de n'importe quelle grande puissance. Les États-Unis observent les règles lorsque cela correspond à leurs intérêts et ils s'en passent lorsqu'elles deviennent gênantes. Je cite encore, pour le dire simplement, le 45e président des États-Unis ne souscrit pas à l'impératif de maintenir l'hégémone américain parce qu'il ne souscrit pas au grand récit sur le 20e siècle édifié par l'establishment lui-même.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut bien sûr retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr, sur notre belle chaîne justement.